Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Et un grand bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver, merci d'être là et merci d'écouter De quoi je me mêle, de regarder De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech sur BFM Business le week-end, sur la chaîne Tech & Co, dorénavant sur les box opérateurs et puis bien sûr en audio. Au menu de ce De quoi je me mêle, bien comme d'habitude, pendant un peu moins d'une heure, on va débriefer l'actualité avec nos experts qui vont me rejoindre dans un instant. Merci d'être avec nous et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et encore une fois, les amis, une actualité plutôt chargée. Et pour commenter tout ça, Anthony Morel est à ma droite. Bonjour Anthony.
Bonjour François, bonjour à tous.
Et en face de lui, Raphaël Grably. Salut Raphaël.
Salut François.
Voilà nos ténors de l'actualité tech du groupe qui sont là et qui vont commenter toute l'actualité de cette semaine. On va évoquer tout à l'heure Zuckerberg qui accélère vraiment sur la VR. On va parler de TikTok qui pourrait être menacé aux US. Bouygues qui lance une box 5G, mais pour débuter... Voilà, dans quelques semaines, ce sera le grand rendez-vous d'Apple. Vous le savez, mi-septembre en général, la keynote, hein, Raphaël, Anthony, on suit ça forcément. Alors, parfois avec un peu de lassitude, parfois avec un peu de déception. Mais malgré tout, c'est un rendez-vous important. Et on en sait de plus en plus, bien sûr, hein, à partir du moment où la date se rapproche, on en sait de plus en plus sur les annonces qu'on pourrait avoir cette année, Raphaël.
Oui, on peut regarder évidemment les nouveautés de septembre. Et en fait, c'est vrai qu'il y a pas mal de fuites sur tous les produits Apple qui devraient sortir à partir de septembre et jusqu'à la fin de l'année 2022, début 2023. C'est-à-dire qu'on va avoir évidemment les nouveaux iPhones, donc iPhone 14, iPhone 14 Pro. Alors, pas d'iPhone 14 mini, a priori, hein, la gamme mini devrait sauter. Un peu dommage, moi j'adorais la gamme mini, mais bon, a priori, Apple mise plutôt sur le grand format.
Ouais, ça prouve en tout cas que ce format est un échec pour Apple, parce que s'il l'arrête, après, ça veut dire que les ventes ne sont pas au
niveau. Après, un échec chez Apple, c'est un succès pour beaucoup d'autres,
mais par rapport
au volume, ils jugent que maintenir des lignes de production et un environnement marketing et une commercialisation, c'est pas suffisamment rentable. Donc c'est vrai qu'a priori, les gens veulent majoritairement des grands écrans. Hein. Aujourd'hui, tous les smartphones sont grands. Et donc voilà, Apple va continuer là-dessus.
Alors, juste un truc sur les iPhones, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu que visiblement on parle d'une iPhone d'un 14 Max, et alors qu'avant c'était que les Pro Max qui étaient grands. C'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des grands iPhones qui sont pas forcément du haut de gamme, si j'ai bien compris. Que tu te rappelles qu'avant on avait l'iPhone 13.
Oui, il y a le Pro.
Le Pro qui était à la même taille que l'iPhone 13. Et là on se retrouve avec un iPhone 14 et un iPhone 14 Pro. Et un iPhone 14 Pro Max. Donc, en fait, il y aurait deux grands modèles. C'est une nouveauté quand même.
On ne sait pas tout à fait encore. C'est vrai que il y a des choses un peu contradictoires qu'on voit. Par contre, moi, ce que je trouve quand même assez saisissant, pour moi, ce serait une vraie nouveauté, ce serait que, pour la première fois, l'iPhone 14 classique n'aurait pas de nouveau processeur. C'est-à-dire qu'on resterait sur la dernière puce, la puce donc de l'iPhone 13.
Sur un Pentium 2.
Sur un Pentium 2. Qui ne s'innove pas, en fait.
Voilà, exactement. Non, mais c'est-à-dire que le nouveau processeur, ce serait pour la gamme Pro.
D'accord.
Ce qui pour moi peut avoir du sens, parce qu'en vrai, quand on regarde la puissance de la puce de l'iPhone 13, on se dit que en fait, le truc, c'est que maintenant, les puces, que ce soit iPhone ou chez Snapdragon, par exemple, c'est tellement puissant qu'on n'a plus la différence qu'on avait les dernières années par rapport aux usages. C'est-à-dire qu'on a chaque année une augmentation de la puissance, mais une augmentation des usages qui n'est pas corrélée, je trouve. On a des usages qui sont assez proches. Et donc finalement, pour Apple, ça permet évidemment de se grappiller un petit peu de marge supplémentaire, parce qu'on ne va pas se faire d'illusions, le prix de l'iPhone 14 ne sera pas inférieur au prix de l'iPhone 13. Et peut-être aussi quand même...
Il y a l'inflation, bien sûr.
Et peut-être aussi quand même de faire face à une pénurie de composants. C'est-à-dire que peut-être, alors ça, je ne le dis pas avec certitude, mais il est quand même possible que ce soit plus compliqué d'avoir le nouveau processeur en quantité, parce qu'il faut quand même se rappeler que l'iPhone 14, ce sera l'iPhone le plus vendu. Donc c'est-à-dire que c'est là où on aura le plus gros volume à avoir. Donc forcément, la question de la pénurie de composants se joue d'autant plus sur cet iPhone 14. Donc ça, ce serait une évolution. Et après, peut-être ce qu'on voit d'ailleurs à l'écran, la fin, encore une fois, pour les pros, de l'encoche, c'est-à-dire avec plutôt un poinçon, quelque chose de plus petit, donc vraiment un design qui pourrait évoluer. Mais on aurait, on va dire, une différence beaucoup plus marquée, si ce qu'on voit est juste, entre le modèle classique et le modèle pro, ce qui était peut-être un peu moins le cas cette année et l'année d'avant.
Alors, juste une chose, hein, les images que vous voyez, ce sont des
oui, alors évidemment,
c'est des images de
c'est pas l'annonce d'Apple.
De concept artistique, bien évidemment, c'est pas Apple qui nous ont dit, bah, tiens François, je t'envoie les images des nouveaux iPhones et tu gardes ça pour toi.
J'ai reçu ça en WeTransfer, ils m'ont balancé en WeTransfer.
Gros bisous, Tim.
Merci, Tim.
Non, c'est pas ça.
Bon, et quand est-ce qu'ils innovent, sinon, Apple? Est-ce que le Pro Max, le Max Pro, est-ce qu'il y a une encoche, pas d'encoche? Bon, c'est sympa, mais bon, ils nous font rêver à quel moment, là, Apple? Moi, j'ai envie, c'est ça qui me...
Mais en même temps, quel fabricant de smartphone fait rêver aujourd'hui, arrive à faire rêver?
Écoute, moi quand je vois, tu vois, les derniers, par exemple, tiens, celui qu'on a testé il n'y a pas longtemps, là, le Oppo déroulable, comme un store, ça c'est un truc, pour moi, voilà.
Ah oui,
ça,
mais...
tu vois, t'as un effet...
Ah non, mais moi je parle de faire rêver pour le grand public, enfin, je veux dire, disponible en masse, quoi.
Ouais, bah non, mais alors, en tout cas, je pense que... Il est l'heure là de nous trouver un truc qui sorte du on a amélioré le processeur, on a amélioré l'appareil photo, et je dis pas c'est une marque incroyable, ils font des téléphones incroyables, il y a rien à dire là-dessus, mais voilà le petit truc qui fasse que là, ouais, là je suis vraiment bluffé, j'ai un écran qui se plie en trois, qui se tord comme un store, j'ai une batterie qui dure 15 jours, tu vois, enfin des trucs vraiment sur lesquels il peut y avoir un vrai marqueur.
Tu penses qu'ils sont un peu frileux, Apple, justement, dans l'innovation?
Non, mais après, je dis pas, franchement, après, c'est les changements, forcément, maintenant, ils se font de manière itérative, c'est-à-dire que tu peux pas réinventer la roue tous les ans. Mais là, je trouve que ça fait quelques années qu'ils ont pas réinventé la roue, et ça manque un petit peu. Donc, peut-être que les innovations, ça va être d'ailleurs plus sur les accessoires, sur les AirPods, sur les montres, alors, sans même parler du casque ARVR, hein, qui est prêt, enfin, qu'on pourrait entreapercevoir début 2023, si on en croit les dernières rumeurs. Mais c'est vrai que sur les montres et les AirPods, on parlait notamment d'arrivée de fonctionnalités médicales nouvelles, par exemple des lecteurs de glycémie pour les patients diabétiques sur les montres, les AirPods qui pourraient intégrer des capteurs de température ou des capteurs de posture ou ce genre de choses.
Oui, ou de fréquence cardiaque.
De fréquence cardiaque aussi. C'est des trucs qui pourraient... Voilà,
et il y a l'Apple Watch Sport Extreme qui pourrait être assez sympa aussi.
Ouais, absolument, absolument. Mais tu vois, sur les iPhones, depuis quelques années, je reste un peu sur ma faim. Voilà.
Je suis d'accord avec toi, Anthony.
En fait, pourquoi Apple est forcément... destiné à innover moins que les autres. Et effectivement, quand on parle d'innovation aujourd'hui, c'est forcément, innovation, on va dire, des fonctions ou des smartphones un peu waouh. Pourquoi est-ce qu'on parle forcément des marques chinoises? Parce que les marques chinoises, elles ont une logique de, on va dire, de lancement de produits et de séries de smartphones, mais de petites séries. C'est-à-dire qu'elles lancent une série de smartphones, ça marche, tant mieux, ça marche pas, au revoir. Et elles peuvent se permettre, je veux dire, quand on regarde le nombre de références de Xiaomi, de Oppo, de Huawei en Chine, ou de Vivo, enfin, je veux dire, il y a, je sais pas combien de centaines de références, c'est monumental. Et ils peuvent, entre guillemets, s'éclater, ils peuvent se permettre de faire ça. Apple, quand ils lancent un iPhone, il y a 2-3 modèles, et ils en commandent 200 millions par trimestre. Enfin non, en tout, pardon, c'est 80 millions par trimestre, en gros. Donc quand on commande 200 millions d'un produit ou d'une gamme, on ne peut pas se foirer, ce n'est pas possible. Et il faut que ça aille à tout le monde. Et donc, c'est pour ça que mécaniquement, la position d'Apple fait que quand une fonction arrive sur l'iPhone, c'est qu'elle est mature et c'est qu'il y a un usage qui est avéré et définitif pour les utilisateurs. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours l'impression qu'en gros, Apple, il valide une nouveauté. Quand une nouveauté arrive sur iPhone, c'est une nouveauté qui est validée.
Non,
mais forcément, si on est un fou de l'innovation et des choses qui sont vraiment qui sortent de l'ordinaire, on les trouvera quand même assez rarement chez Apple, de fait, en fait.
Juste une chose sur ce sujet, il y a quand même aussi la pression de l'écologie et de l'environnement. Pendant encore combien de temps Apple va pouvoir sortir 3 ou 4 téléphones par an, quand on sait, Anthony a raison, que les innovations sont tellement incrémentales que parfois on ne reconnaît pas.
Ne sort
tu
même
sais que
pas
la dernière
de nouveau
fois,
téléphone.
Je me suis trompé, je ne voyais pas la différence entre un 12 Pro Max et un 13 Pro Max.
C'est ça, donc fais-moi une keynote tous les deux ans à ce moment-là.
Et tu te dis au bout d'un moment, ça va péter, ce truc-là va péter.
Et oui, mais
au bout d'un moment, Apple ne pourra pas sortir... Mais un nouveau smartphone chaque année.
Oui, mais ça rejoint
surtout
ce que je te disais.
Quand tu as une encanche un petit peu plus petite ou que tu gagnes 2 mégapixels
sur
l'appareil photo.
Mais ça revient à ce que je te disais. En face, tu as les fabricants chinois qui en sortent un tous les deux mois.
Moins quand même. Hein. C'est moins quand même aujourd'hui.
Non, mais tu as énormément de sorties.
Mais tu as beaucoup plus de références.
Plus de références.
Oui.
Et donc, si tu veux, Apple est obligé de répondre. Mais effectivement, l'idéal, c'est clair. Mais d'ailleurs, c'est ça les chances. On parlait de l'écologie. C'est vrai qu'Apple, sur l'écologie, ils sont assez imbattables, on va dire, sur la fabrication, sur la mise à jour logicielle. Mais c'est vrai que ils gardent, et ce qu'on leur reproche, c'est l'attrait marketing. C'est-à-dire qu'en gros, ils donnent, quoi qu'il arrive, envie d'acheter le nouveau. Oui. Bon, après, encore, l'ancien ne va pas à la poubelle pour autant.
Tu trouves pas un peu moins,
mais c'est vrai que le jour où Apple dira c'est fini, c'est plus un tous les ans, c'est un tous les deux ans, là, mais là, financièrement, je pense qu'ils risquent vraiment de se tirer une balle dans le pied.
C'est même pas sûr à faire. Non, parce que s'ils font un bon produit tous les deux ans, ils en vendront non pas 200, mais 400 millions. Parce que l'année d'après...
Il faut voir ce que tu as en face, en fait. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas seuls.
Les innovations sorties sur le marché par les marques chinoises ces 6 derniers mois ou depuis le dernier iPhone ne justifient pas nécessairement que tu aies un nouveau modèle d'iPhone.
Ah mais ça je suis d'accord. Non mais attends, moi si tu me demandes
mon avis, si tu avais vraiment des innovations incroyables du côté des Chinois tous les deux mois, là forcément Apple serait obligé de.
Mais moi si tu me demandes mon avis, je suis entièrement d'accord avec vous. Un iPhone tous les deux ans, ça suffirait largement, au même titre qu'un Samsung tous les deux ans, que la gamme S tous les deux ans, ça suffirait largement. Et c'est pareil pour tous les hauts de gamme. Et d'ailleurs, vu que les calendriers sont sera décalé, au final il y aura quand même des nouveautés régulièrement évidemment. Après, je pense qu'Apple, je pense qu'ils se posent la question,
mais clair,
ça leur coûterait trop cher.
Il y a la question technique, la question business. Il y a la question d'image, parce qu'au bout d'un moment, ça va commencer à gueuler, c'est clair.
Mais c'est déjà un peu le cas.
Et quand on sait qu'Apple est tout le temps en train de façonner son image et dès qu'il y a un truc, c'est d'effacer.
Ça gueule et ça gueule pas, parce que si tu veux, ça gueule, t'as, je pense, une frange écologique, effectivement, qui va avoir ce discours-là. Mais à partir du moment où t'as 100 millions de personnes qui achètent un iPhone, je veux dire, l'argument économique, il est absolument massif.
Et puis ils en vendent à chaque fois.
Ils n'ont aucune raison de s'arrêter objectivement. Oui. Enfin, tu vois.
Tu as raison. Et puis en plus, on pourrait se dire que même s'ils sortent tous les deux ans un nouvel iPhone, peut-être qu'ils en vendront 400 millions et l'impact écologique sera le même.
Mais après, un nouveau modèle. Je me pose une question.
C'est ça aussi. Ça réglera peut-être pas les problèmes. Mais quand on voit l'explosion du reconditionné aujourd'hui, parce que ça devient vraiment, quand on regarde les parts de marché aujourd'hui du commerce de smartphones, ça prend de plus en plus d'ampleur.
Et tu vois aussi que les gens renouvellent moins en moyenne, moins rapidement leur smartphone. Ça se joue à quelques mois, mais tu vois, en France,
petit à petit, la moyenne de durée de temps de conservation d'un téléphone,
C'est ce que j'allais dire. C'est aussi à nous, consommateurs,
on est un peu prescripteurs.
Alors nous,
vous nous écoutez,
téléphone tout le temps.
Mais malgré tout, on ouvre le débat, on en est conscient.
Mais par contre, c'est aussi à nous, en tant que consommateurs, de faire attention aussi, de ne pas acheter forcément. Alors nous, on doit les tester, donc forcément, c'est un peu différent.
On a une bonne excuse,
donc c'est un peu facile de parler pour nous, c'est clair. Ouais. Mais après, ce qu'il faut aussi savoir, enfin, moi, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que vraiment il y a un impact écologique, c'est important? C'est-à-dire que, est-ce que le fait de changer d'iPhone tous les ans a un impact écologique? Parce que ces iPhones, quand on en change tous les ans, ils partent pas à la poubelle, en fait, ils restent en vie. Et donc, finalement, on alimente le marché du reconditionné aussi, ou le marché de la vente à son petit cousin, mais c'est des téléphones qui continuent à servir. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que l'impact écologique est si important que ça? Parce que de toute façon, même si on change souvent, alors si tout le monde change souvent en bout de chaîne, là évidemment, forcément en bout de chaîne, il y en a plus qui partent à la poubelle. Mais est-ce que c'est pas aussi absorbé par ces nouvelles habitudes qui sont d'acheter aussi des smartphones reconditionnés?
Non, mais je pense aussi qu'il y a une espèce de déception sur les les nouvelles générations.
Mais ça fait 5 smartphones qui font
que... si les gens sont assez gogo pour acheter un téléphone juste parce qu'il a un téléphone un peu plus puissant, tu vois, il y a un moment aussi, c'est aussi la responsabilité de chacun, quoi. Tu vois,
c'est clair, on le dit, on fait la tête, on dit,
il y a ça qui est mieux, il y a ça qui est
moins. Anthony, d'accord, mais c'est aussi la responsabilité du constructeur, je trouve. Il a une responsabilité.
Non, pas pour moi. Pour moi, pour le coup... Le constructeur, c'est une entreprise, c'est pas des philanthropes, ils sont là pour vendre des téléphones, ils les produisent, s'ils arrivent à les vendre, tant mieux pour eux. Moi, je pense que c'est le consommateur qui fait son choix derrière.
Quand tu as une boîte comme ça, avec de tels enjeux, tu as aussi une responsabilité, malgré tout. Et si tu vois,
après, tu peux t'imposer une responsabilité,
tu forces la tentation.
Oui.
Donc, c'est là où, à mon avis, ils sont un peu responsables. Mais
je pense qu'ils se posent la question. À mon avis, c'est un sujet qu'ils ont dû aborder.
Je pense. Ou alors, qu'ils nous sortent vraiment des innovations étonnante. Je prends juste l'appareil photo. L'appareil photo de l'iPhone, depuis des années, c'est toujours du 12 mégapixels. Alors, évidemment, ça s'améliore un peu en basse luminosité. Il y a quelques améliorations.
Mais
depuis un moment, Apple n'est plus le meilleur appareil
photo. Non, mais en fait, il y a quand même un truc, je trouve. Depuis, je trouve, 3-4 ans,
on changera.
Tous les smartphones sont quand même plutôt bons. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mauvais smartphones.
Non, c'est sûr.
En fait, on est arrivé à un produit qui est tellement mature, et c'est très bien, et même à des prix très accessibles. Mais en vrai, moi, quand j'ai commencé chez 01net, J'ai testé des bouses, des vraies bouses.
Les premiers Wiko qu'on testait.
Ouais, mais et pas que les Wiko, pas que les Wiko. On a testé des vraies bouses. Et aujourd'hui, c'est comme les télés, tu vois. C'est comme les télés. Aujourd'hui, une bonne télé, ça coûte pas cher tout le monde. Enfin, tout le monde. Je sais que c'est beaucoup d'argent, mais.
Ouais, même une moyenne gamme.
Une moyenne gamme, c'est super. Enfin, je veux dire, moi, j'ai même pas de télé haut de gamme, en fait. J'ai des moyennes gammes et un entrée de gamme parce que ça me suffit, en vrai. Pour dans une chambre, si on est le soir et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, ça suffit largement. Et les smartphones aujourd'hui, je trouve qu'on est arrivé sur un marché. Où ils sont tous plutôt bons, c'est-à-dire qu'ils sont tous bons en photo, ils ont tous... Alors après, la différence, c'est le design et l'autonomie, ça c'est important. Mais ils sont tous plutôt bons. Et donc forcément, on n'a plus d'effet waouh depuis quelques années, mais c'est plutôt aussi une bonne nouvelle.
Premier iPhone commercialisé il y a 15 ans,
jour pour jour.
C'est dingue.
Bon, aux États-Unis.
Nous,
15 ans, ça paraît loin, mais c'est hier aussi, finalement. C'est dingue. En 15 ans, comme Apple a complètement...
Sans 3G, sans MMS.
Sans copier-coller.
ça fallait un moment qu'on parle de ce truc-là, mais je voulais juste une petite
histoire.
Je ne sais pas si je vous l'avais raconté, mais avec mon camarade Jérôme, donc en 2007, on part à New York pour je ne sais plus quelle raison, mais je crois que c'était pour un voyage de presse HP. On arrive là-bas et en fait, on était au voyage de presse HP. Je peux le dire maintenant, mais en fait, HP, on s'en foutait un petit peu. C'était pour aller à l'Apple Store.
Les escrocs.
À l'Apple Store à New York pour faire la queue et acheter le premier iPhone. Et on l'avait ramené, ce truc-là, mais on était les rois du monde, quoi. C'était en septembre 2007. L'iPhone ne fonctionnait pas en France. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous atterrissiez à Paris.
C'était un iPod.
Vous le mettiez. Voilà, c'était un iPod.
Tu pouvais le jailbreaker après, non ?
Alors après, il y avait toutes ces histoires de jailbreak. Et alors, la libération, quand vous arriviez à jailbreaker cet iPhone et que vous pouviez mettre une puce orange à l'époque, c'était incroyable. Et alors, quand vous sortiez le téléphone comme ça, nonchalamment, là, c'était la classe quand même. Et pourtant, c'était inutilisable.
Dans le métro, on regardait, là.
Et là, c'était inutilisable parce que c'était de l'Edge, alors qu'on était déjà en 3G en France. Ouais. Voilà, on referme la parenthèse. Tout ça, c'était il y a 15 ans. Et c'est rigolo parce que sur la chaîne YouTube de Tech & Co, il y a encore la vidéo avec Jérôme où on se balade comme des fous là dans cet Apple Store pour retrouver.
Vous aviez refait la même pour l'iPad, il me semble.
On avait fait la même pour l'iPad. Ouais, ouais. C'est vrai. On
est collector tout ça.
Bon, c'est moins.
C'est dingue, hein, quand même. Des années qui passent comme ça, c'est rigolo. Dernière petite anecdote concernant l'iPhone. L'iPhone dans l'eau, ça tient le coup quand même.
Bah, c'est pas mal. Et on dit souvent que les smartphones, les iPhones et les smartphones en général, c'est des petites choses fragiles. Là, preuve du contraire avec cette histoire assez étonnante, insolite, on va dire, d'un Britannique qui a eu la bonne surprise de retrouver son iPhone perdu dans l'eau. 10 mois plus tard, en état de fonctionnement parfait. Voilà. C'est un autre utilisateur qui, en faisant du canoë, est tombé par hasard sur un iPhone, donc plein de vases. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ? Bon, je le ramène à la maison, on verra bien ce qui se passe. Il le met dans du riz, non pas du tout, pas dans du riz. Il le met dans une armoire, il l'aère bien, il essaie de le sécher bien, tant bien que mal. Et il appuie sur le bouton marche arrêt, et là, miracle, le truc se rallume. Il est à la date et à l'heure, 10 mois plus tôt où il était tombé à l'eau.
Incroyable.
Avec en écran de veille la photo du propriétaire. Il la publie sur les réseaux sociaux en demandant c'est qui voilà. Et par le miracle des réseaux sociaux, il arrive à trouver son propriétaire qui va donc récupérer 10 mois plus tard son iPhone en parfait état de fonctionnement.
Et oui. Incroyable. Ça aussi, c'est une innovation technologique, l'étanchéité qui est quand même un truc de dingue. Hein. Il y a encore 5 ans.
Alors justement, par contre, j'en profite pour lancer un nouvel appel. C'est un truc que je répète tout le temps.
Alors que les vacances arrivent en plus.
Tuto
vacances.
Ah non, mais important. Les smartphones, et ça c'est très bien, toutes les grandes marques maintenant, que ce soit Samsung, Apple et les autres, proposent des smartphones qui sont certifiés IP67, IP68. En gros, techniquement, ils résistent à une immersion. Alors là, un peu plus, mais sur le papier, à une immersion en gros de 30 minutes à 1 mètre ou 2 de profondeur. Attention, ils sont résistants à l'eau en cas de chute, ils ne sont pas waterproof, ils ne sont pas étanches. Ça veut dire, et parfois les pubs où les sites peuvent nous laisser penser le contraire, c'est là où il faut faire très attention. D'ailleurs, Apple a été condamné en Italie pour ça.
Il ne faut pas utiliser son smartphone sous l'eau, par exemple.
Si il tombe en panne à cause de l'eau, il n'est plus garanti. C'est-à-dire que les marques communiquent là-dessus, on peut penser que du coup, il est garanti. Pas du tout, ce n'est pas garanti. Donc, il ne faut pas jouer à ça. Ça résistera si ça tombe dans l'eau, mais n'allez pas plonger avec.
J'ai reçu un truc génial là, que je suis en train de tester. un caleçon de bain avec une poche étanche pour smartphone.
Non, c'est pas vrai.
Incroyable. Ils ont gagné un prix au concours Lépine là, récemment. notamment. C'est une boîte française qui s'appelle Mouiller le Maillot. Et ils ont fait. Non, mais c'est génial, franchement. Donc, tu as un caleçon de bain, petite poche qui se verrouille. Et bon, bah, a priori, voilà, tu peux mettre ton téléphone dedans. Et, donc, c'est vraiment top. Ah, c'est super bonne idée.
Bah, c'est mieux que de laisser sur la plage. Ouais.
Mais je serai Apple, juste pour terminer. Je contacterai le gars, j'essaierai de récupérer le téléphone pour voir ce qui s'est passé. Quoi. Il y a peut-être que, je sais pas, il a été en contact avec une roche spéciale hydrophobe ou avec des algues qui l'ont protégé, j'en sais rien. Tu vois, c'est quand même très étonnant qu'il ait pu tenir 10 mois comme ça sans aucune.
Après, on ne sait pas le modèle, mais c'est vrai que plus
ça ressemble à un iPhone 10. Hein.
Plus on avance en fait dans l'innovation chez Apple, plus les téléphones sont renforcés et étanches en fait parce qu'ils maîtrisent de mieux en mieux en fait cette protection. Et puis c'était de l'eau douce. Rappelons-le.
Ah oui,
c'est un l'eau de mer.
Dans l'eau de mer, l'iPhone.
Ouais, mais ça ressemble à un iPhone 10, je pense. Et les iPhone 10, ils étaient déjà IP67.
Apple, c'est fait. Bon, on a été un peu long, mais malgré tout, voilà, il y a quand même des trucs à raconter. Amazon, tiens, Anthony. Amazon qui a eu une drôle d'idée. Alors, cette com de Amazon concernant Alexa est assez étonnante.
Ouais, Amazon qui veut faire parler les morts.
Mais voilà.
C'est ça, en toute simplicité. Alors oui, quand on dit com d'Amazon...
Jeff Bezos, c'était vraiment dans le transhumanisme. Mais alors là, on franchit une étape quand même.
C'est dans l'au-delà, carrément. Tu vois vraiment... mais alors, quand on dit com d'Amazon, en fait, c'est un peu particulier parce qu'ils donnaient... ils avaient leur grande conférence annuelle qui s'appelle la conférence ReMars, qui est la conférence où, tous les ans, ils présentent leurs innovations les plus dingues. C'est pas forcément à destination du grand public, c'est plus pour les ingénieurs, un public de technophiles sur place. Il y a des guest stars qui viennent, ce genre de choses. Et parmi les annonces, celle qui a été la plus remarquée, c'est une nouvelle fonctionnalité sur laquelle ils travaillent pour les assistants vocaux qui pourrait permettre à Alexa, plutôt que d'avoir la voix générique comme tu as aujourd'hui, d'ultra personnaliser la voix, en gros, de prendre la voix de ton choix et à partir d'un extrait sonore de moins d'une minute, eh bien, de reconstituer cette voix et de pouvoir lui faire dire absolument n'importe quoi. Donc tu peux avoir, je sais pas, la voix de Kylian Mbappé qui va te faire les résumés de matchs de foot, tu vois, enfin ce genre de truc. Ou la voix de ton acteur préféré qui va te raconter une histoire, enfin peu importe. Et là, il se trouve que dans la démo, c'est un gamin qui demande à... Est-ce que mamie pourrait me raconter l'histoire du magicien d'Oz? Mais tu comprends, en fait, que la mamie est plus de ce monde, quoi, globalement. Donc, en gros, c'est ça. C'est, tu peux... bah ouais, mais c'est terrible, mais c'est comme ça.
J'ai failli rejoindre la mamie, là.
T'as failli rejoindre la mamie. Est-ce que, remarque...
Pas tout de suite, Raphaël. On a encore besoin de toi.
T'as parlé plus d'une minute. Oui, c'est pas grave, on peut y aller.
C'est bon, ouais, on pourrait utiliser ta voix, il n'y a aucun souci.
Tu peux disparaître, Raphaël. C'est bon. Dans Amazon, tu es déjà dans le cloud.
Déjà immortalisé.
Tu as une immortalité virtuelle. Et c'est ça, en fait, le principe. Donc, en gros, dans la démo, tu entends la voix de mamie qui raconte l'histoire. Et donc, c'est ça. Donc, la techno, le côté impressionnant de la techno, c'est qu'à partir d'un tout petit extrait sonore, on peut reconstituer la voix d'une personne et lui faire dire n'importe quoi. Donc, elle peut prendre la voix de l'assistant vocal. Mais Amazon imagine sérieusement, dit, bah oui, ce serait une manière finalement de gagner une immortalité numérique, de permettre de garder un souvenir virtuel, avoir une sorte de sanctuaire comme ça avec des gens de la famille qui pourraient continuer à interagir avec vous au jour le jour, ce qui peut quand même sembler un peu sinistre, glauque, tout ce que vous voulez. Enfin, toutes les réactions que j'ai lues sur cette news étaient... enfin, quasi unanimement négatif. Enfin, vraiment, les gens se disaient, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête? C'est hyper bizarre, surtout de le présenter comme ça. Et c'est vrai que c'est très étonnant, mais Amazon est loin d'être le seul à avoir ces idées d'immortalité numérique. Il y a notamment Microsoft qui a déposé des brevets pour des chatbots numériques, de la même manière. Donc là, c'est un agent conversationnel qui pourrait s'inspirer des publications d'une personne décédée sur les réseaux sociaux, les SMS qu'elle a envoyés, ce genre de choses, et qui pourrait reproduire son style, c'est-à-dire en utilisant y compris reproduire son style d'humour, les emojis qu'elle aimait bien utiliser. Et donc tu discutes voilà, sur WhatsApp avec ton ami décédé et il va te répondre. Enfin, non, mais, j'aurais jamais pensé prononcer cette phrase, mais tu vois le truc. Tu discutes
sur WhatsApp non, mais avec ton ami décédé.
Ça va quand même très
bien.
C'est
l'une des phrases qu'on va garder pour cette année.
Oui, best of.
Elle est bien.
Ouais,
c'est
pas mal.
Très bien.
C'est pas mal. C'est pas mal. Non, mais c'est assez dingue. Et en même temps,
comment
tu vois,
t'as ce...
Comment ça va?
Moyen.
Moyen, quoi.
Non, mais je trouve que ça dit quelque chose quand même des velléités. Encore une fois, on parlait de transhumanisme, mais voilà, ce délire, ils sont quand même parfois complètement hors sol, là, nos amis de la Silicon Valley. Là, c'en est une illustration assez frappante, je trouve.
Mais ça me fait vachement penser à ce qu'on se disait à Vivatech l'autre jour sur l'ingénieur du Google qui a cru parler à une IA qui était devenue humaine et au risque, je pense, psychologique qu'on peut avoir. C'est-à-dire que finalement, encore une fois, le problème, ça va pas être la machine, ça va être l'humain. C'est-à-dire que quel dégât. Alors, une petite fille qui a sa mamie qui lui dit une histoire. Bon, déjà, je sais pas si psychologiquement c'est sain, mais alors on imagine d'autres cas, c'est-à-dire des personnes qui auraient, je sais pas, leur femme, leur mari, qui serait décédé brutalement, très jeune, et qui voudraient comme ça rentrer. Ce qu'on a vu, c'était un des premiers épisodes de Black Mirror, hein, c'était exactement ça.
Oui, c'est ça.
Dans un accident de voiture,
oui,
il me semble.
Oui, oui. Et puis après, il y a un robot qui prend l'apparence l'apparence.
Voilà,
fait,
mais ça commence
décédée.
Exactement avec ton histoire de WhatsApp. C'est-à-dire qu'elle discute avec son ami qui est mort. Là, je me pose vraiment quand même la question de l'impact psychologique. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que ce soit validé, ce truc. Parce que
mais à un moment,
c'est pas un produit comme un autre.
Il y a un attachement émotionnel.
Il y a un attachement émotionnel.
Mais qu'est-ce
qu'il doit y avoir une validation autre ?
Le truc, c'est qu'on n'y peut rien. Enfin, je veux dire, Amazon invente cette technologie.
Ça peut être encadré, ça peut être régulé
quand même.
Il y a des régulations pour des tas de produits.
Si vous vous souvenez, ça existe dans les GPS depuis des années, en fait, cette histoire-là. Vous avez la voix de Jacques
Chirac. La voix de mamie décédée ?
Non,
oui,
pas la voix
tu peux avoir des accents, tu peux avoir la voix d'une personnalité.
Technologiquement,
oui.
Ça existe depuis des années.
Non, mais parce que la différence, c'est que ça a été enregistré tout le long avec la voix, alors que là, c'est régénéré. C'est un enregistrement qui imite, alors que là, c'est vraiment généré à partir d'une tessiture,
d'une
vocale. Donc c'est là où
c'est... Et sans le consentement de la personne. Il y a aussi la question du consentement.
Mais là, on est encore sur l'histoire de deepfake, finalement. C'est un deepfake vocal,
c'est
en fait.
C'est un deepfake vocal.
Ça va faire plaisir à Thierry Ardisson, cette histoire.
Oui, c'est clair. Mais moi, je pense que ce type de produit, si ces fonctions devaient vraiment arriver, pour moi, il devrait y avoir un encadrement et que ce soit régulé. Parce que je ne suis pas sûr quand même qu'on ne risque pas de créer
des déséquilibres mentaux.
Mais ça me paraît évident.
Je ne suis pas sûr qu'ils le fassent, finalement.
Le risque me paraît évident.
Mais le risque est évident, c'est clair. Mais je pense qu'ils sont quand même pris un peu un retour de flamme. C'est quand même assez glauque. Bon, j'ai trouvé ça bizarre qu'ils présentent cette technologie-là de cette manière-là.
C'était assumé.
Mais oui, c'est ça.
C'était pas détourné.
Non, c'est ça.
Parce que franchement, la techno, le fait de pouvoir reproduire la voix de n'importe qui, ils auraient pu le faire comme je disais avec une star du sport qui te raconte son dernier match, ce genre de truc. C'est, là pour le coup tu pouvais mais là ils sont partis directement sur la dérive la plus terrible de leur technologie en disant regardez on va pouvoir s'en servir pour faire parler les morts. Bon, génial.
Quand j'ai lu ce truc je croyais que c'était bon, je me suis dit ok, ils ont présenté une voix qui imite quelqu'un et c'est un journaliste qui a voulu faire un titre un peu
putaclic
qui a fait ça et je suis remonté en fait non pas du tout, c'est eux qui ont vraiment assumé ce truc là. Donc il y a un moment je trouve que dans ce genre de boîte on devrait toujours se dire bon, est-ce que c'est dans Black Mirror ou pas, et si c'est pas dans Black Mirror on peut regarder.
Mais
c'est vrai franchement parce que Black Mirror c'est vraiment l'encyclopédie de toutes les dérives et donc là c'est un épisode copié-collé, donc
c'est devenu le nouveau poncif des journalistes de la tech. Moi je l'applique à moi-même mais on se croirait dans un épisode de Black Mirror, en fait, tu le dis tout le temps.
Mais franchement j'ai réfléchi à en parler mais en vrai
c'est littéralement ça
et je trouve que c'est tellement c'est tellement bien vu comme série que on voit
puis,
que, voilà.
Puisque tu parlais de deepfake et qu'on évoquait Ardisson, allez jeter un œil sur l'Hôtel du Temps, hein, cette émission qui est en replay sur France Télé.
Ouais. Techniquement, c'est incroyable.
Voilà. Ou alors, il interview Dalida, mais j'ai eu la chance de rencontrer le producteur en fait de ce doc. C'est une boîte française qui fait ça, et c'est impressionnant en fait comment ils arrivent à reproduire les visages. En fait, c'est une comédienne qui a quelques traits de Dalida, et après tout passe dans de l'IA et de la puissance de calcul pour recréer le visage de Dalida. Mais vous regardez ça, vous vous cassez le nez, quoi. Ouais. Et la voix, ce qui est intéressant, c'est que la voix pour cet épisode-là, ils ont pris une imitation. C'est-à-dire que il y a un petit peu de traitement informatique pour justement un tout petit peu toucher la voix, mais au départ c'est quand même une imitation. Et le producteur m'expliquait qu'ils étaient à deux doigts en fait de prendre des enregistrements des personnes, des stars décédées, de passer ça dans la moulinette comme Alexa, et puis après d'avoir une vraie discussion avec ces personnes-là. C'est assez impressionnant. Messieurs, on revient dans un instant. On va parler de quoi ? On va parler de Netflix, qui n'est pas forcément très grande forme. Meta, TikTok, Tesla, bref, plein de bonnes choses. Vous restez avec nous. La suite de Quoi je me mêle, c'est tout de suite.
De Quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De Quoi je me mêle, François Sorel.
Le retour de Quoi je me mêle, merci d'être toujours avec nous, un bon week-end. Toujours avec Anthony Morel, journaliste à BFM Business que vous retrouvez tous les jours à la fois sur BFM Business, dans Good Morning Business et puis aussi dans Estelle Midi sur RMC et à la télé aussi sur RMC Story. Et puis Raphaël Grably sur BFM Business mais sur BFM TV et dans De Quoi je me mêle. Merci d'être là messieurs. Deuxième partie donc, on parle de Netflix. Alors voilà, on l'évoquait pendant la petite pause, Stranger Things, la série préférée d'Anthony en ce moment.
Ah, j'aime beaucoup, ouais. Moi, j'aime beaucoup.
Non, mais c'est,
ah ouais, non, mais c'est extraordinaire.
C'est cool.
Moi, je pense qu'il y en a beaucoup, parmi ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, je ne veux pas être le seul.
Non,
a priori,
non,
parce
non,
que
non,
toutes
non,
les références geeks, technophiles, donjons et dragons et compagnie.
C'est top. Et puis bon, il y a,
extraordinaire.
Il y a Casa del Papel. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais c'est aussi un énorme succès sur Netflix. Ils en ont d'autres. Hein. La série coraîne.
Bah, Squid Game.
Ah, Squid Game. Il y aura une saison 2.
Oui. Ouais. Voilà, pas tout de suite, je crois.
Non, mais bon, ça donne envie aussi.
Il y a plein de choses qui cartonnent sur Netflix, mais quand on voit la masse de films, de séries produites, on se dit que il y a peut-être un problème, parce que il y a plein de choses qu'on ne voit pas, enfin qui sont produites par Netflix et qui ne marchent pas. Et puis surtout, il y a aussi un souci, c'est que Netflix commence à perdre des abonnés. On l'évoquait il y a quelques temps, 200 000. Là, les prochains résultats financiers de Netflix qui vont être annoncés, on risque d'avoir beaucoup plus que ça. Hein.
Ah, ils vont être regardés, scrutés de très très près, alors sans vouloir mettre la casquette BFM Business comme on le fait parfois, parce que le titre Netflix a quand même perdu. Il était à $600 en janvier, il est à $180 aujourd'hui, donc il y a quand même un truc qui ne va pas. Pour une entreprise de croissance, là, il y a un vrai problème. Ils perdent 200 000 abonnés.
Sanction des financiers. Hein,
oui, oui, non, mais c'est ça, parce que il y a un problème structurel chez Netflix, c'est qu'effectivement, là, ils arrivent à un taquet, quoi. On voit bien qu'en termes d'abonnés, perdre 200 000 abonnés, c'est rien, mais en tout cas, le problème, c'est qu'ils arrivent à un plateau et qu'ils n'arrivent plus à croître, et qu'ils ont quand même un problème massif avec les gens qui partagent des abonnements aujourd'hui. Hein. C'est 100 millions de personnes qui, aujourd'hui, ne payent pas leur abonnement Netflix, mais qui vont emprunter celui des amis, de la famille. Voilà, c'est un comportement qui est largement toléré, y compris par Netflix. Historiquement, ils n'ont pas eu de problème avec ça. Là, ils commencent à se dire, c'est quand même un certain manque à gagner. Il faut qu'on trouve des moyens. Il faut aussi, dans cette période de pouvoir d'achat contraint, qu'on aille toucher des gens qui n'ont pas forcément envie ou les moyens de mettre 10-15 € dans un abonnement Netflix. Comment on fait ? L'une des solutions à laquelle ils réfléchissaient et qu'ils vont vraiment mettre en place, ça a été confirmé cette semaine par l'un des responsables de Netflix lors d'un grand salon, ils vont mettre de la pub. En fait, ils vont proposer des abonnements. Donc, il y aura l'abonnement normal, celui qu'on a aujourd'hui. Et
oui,
puis, on
entre
aura...
10 et 20 euros.
Voilà, ouais. Exactement. Donc, selon les options, le nombre d'écran, la qualité de la vidéo. Et à côté de ça, il y aura un abonnement qui coûtera moins cher. Alors, combien moins cher, on n'en sait rien pour l'instant, mais qui sera adossé à de la publicité. Alors, sous quelle forme ? Ce n'est pas encore très clair. On croit comprendre qu'il y aurait de la pub au début des séries, un peu comme une vidéo YouTube, quand tu lances une vidéo, en général, tout début, tu as une publicité. A priori pas en plein milieu de la série, ce qui pourrait être pas mal, parce que sinon, c'est la télé, quoi.
C'est la télé, et à ce moment-là, tu payes plus. Parce qu'il y a plus premium.
Non.
On est d'accord.
Non, mais bien sûr. Alors après, ils pourraient faire des trucs plus intelligents aussi, parce qu'on sait qu'ils travaillent avec des boîtes, il y a beaucoup de boîtes qui font de l'intelligence artificielle pour incruster de la publicité de manière intelligente dans les séries. C'est-à-dire, par exemple, tu regardes, je ne sais pas, une série, une scène de course-poursuite qui se passe dans les rues. Donc, tu as des panneaux publicitaires dans la rue et le panneau va s'adapter, le contenu du panneau, à la personne qui est en train de regarder. Donc, il va nous proposer des pubs pour, je ne sais pas, des produits tech parce qu'ils savent que, on regarde beaucoup de séries sur les robots, l'intelligence artificielle. Donc, ils disent, celui-là, ça va l'intéresser que je lui montre ça. Et puis, d'autres vont avoir d'autres types de produits. Donc, tu vois, ça peut être une façon intelligente d'intégrer de la publicité sans que ce soit trop pénalisant pour le consommateur qui n'a pas besoin de se taper des bandeaux publicitaires au début à chaque fois qu'il regarde une série, quoi.
Et puis, je ne sais pas ce que tu en penses, Raphaël, mais c'est un peu le sens de l'histoire, parce que Netflix est arrivé à son plafond d'abonnés payants, on va dire. Et aujourd'hui, s'ils veulent générer du chiffre d'affaires, il faut qu'ils trouvent un autre moyen de gagner de l'argent. Et aujourd'hui, pour eux, c'est que de la pub, puisqu'en fait, ils ne trouvent plus d'abonnés, voire même ils en perdent.
C'est-à-dire qu'avant, ils ratissaient, ils claquaient des doigts, ils avaient des abonnés. Maintenant, il faut commencer à aller chercher un par un, donc c'est plus compliqué. Mais moi, je trouve ça très bien, parce qu'un abonnement Netflix familial, c'est 15 € par mois ou 17. Donc c'est cher.
Ouais, ça s'est passé à $20, je crois, aux US.
Ouais, voilà. En France, on est à 17 et il y a 10 millions d'abonnés en France. Alors donc du coup, c'est 10 millions de ménages, donc c'est beaucoup, c'est énorme, mais il y a encore de la marge. Et je trouve ça très bien parce que si voir de la publicité, alors je fais confiance à Netflix pour l'incruster de façon intelligente, c'est-à-dire pas la bonne vieille coupure. S'ils arrivent à faire ça de façon intelligente et que ça permet derrière de payer 10 € de moins et d'avoir un abonnement à 5 € par mois. Moi, je trouve ça super, parce que ça va permettre quand même à des gens de s'abonner qui ne le peuvent pas aujourd'hui. Et effectivement, s'ils font ça, c'est aussi que dans le même temps, ils vont sûrement aller lutter un peu plus contre les abonnés, les partages de comptes. Parce que sinon, je veux dire, il y a un moment, on ne peut pas dire je veux plus d'abonnés, mais je ne vais pas lutter contre le partage de comptes. Et en même temps, donc la publicité, c'est un peu la solution pour ceux qui partagent les comptes.
C'est inexplicable, cette histoire de partage de comptes, en fait. Ils ne pourront pas revenir en arrière, parce que c'est tellement impopulaire et tellement... ils se tirent une balle dans le pied, c'est compliqué peu comme l'internet quand tu dis que c'est gratuit au début puis après tu dis attendez les gars il faut payer maintenant.
Ouais, alors après ils ont jamais dit officiellement allez-y partagez vos comptes, faites-vous plaisir.
Oui mais ils étaient plutôt bienveillants sur ce sujet là tu vois.
Disons qu'ils le toléraient, ils ferment un peu les yeux sur la pratique, mais enfin bon, alors ce qu'ils font, ils l'ont testé, je crois on avait eu l'occasion d'en parler ils testent ça dans plusieurs pays d'Amérique latine, c'est le fait de proposer aux gens qui squattent les comptes de payer, genre c'est 2 ou 3, ça va être 3 euros par mois pour avoir un accès officiel finalement qui se greffe sur, sur l'accès d'une personne qui est abonnée, ce qui peut être une manière aussi d'attirer les gens. Enfin bon, après, à partir du moment où tu ne payes pas, est-ce que tu as envie de payer même 3 euros par mois ?
C'est le bâton ou la carotte. Et je pense que la stratégie, ce n'est pas de dire vous ne payez pas, c'est fini, maintenant il faut passer à la caisse, c'est de dire on va vous accompagner pour une transition et venez payer un petit peu et puis vous paierez un peu plus après ou vous aurez de la pub.
Et t'as plein de boîtes, y compris en France maintenant, qui proposent, qui ont institutionnalisé le partage d'abonnements.
Split
notamment, hein, avec 3i où vous inscrivez.
C'est d'ailleurs assez borderline.
Eux disent on est en discussion avec eux, tout ça. Ouais, mais
enfin,
bon,
ça fait 4 ans qu'ils sont en discussion avec eux. Ça ne discute pas beaucoup.
Ouais, en tout cas, ça fait 4 ans que Netflix n'a pas fait fermer non plus la plateforme.
Il y a peut-être un vide juridique là-dessus.
Mais Split, c'est vraiment ça, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est je m'inscris à Netflix, tu t'inscris à Disney+, et puis on partage.
Et puis c'est tout, même les VPN, enfin tous les abonnements.
Tous les services de Spotify.
Le concept est génial, je trouve. Après, bien sûr, légalement, faut voir comment. Là, pour le moment, c'est bon. Il y a un vide juridique, je crois.
Ouais, ils sont sur une zone grise. Ouais,
voilà, la question, c'est comment ça va évoluer, quoi.
Moi, j'aimerais juste qu'on évoque après l'arrivée de la pub sur Netflix. Ça peut poser quand même aussi problème, à mon avis, aux médias traditionnels, parce que il faut savoir que le gâteau publicitaire global, il n'est pas extensible à l'infini. Et si demain Netflix, qui est quand même une plateforme de qualité, parce qu'on parle de Netflix, mais demain ça sera Disney+, ça va être Amazon, demain ça sera MyCanal, sans doute, HBO, enfin voilà, Netflix va ouvrir la voie, tout le monde va s'y mettre. Ça va réduire le gâteau publicitaire des médias plus traditionnels qui font de la télé et de la radio. C'est une menace.
Ça peut être une menace sur TF1, par exemple.
Pour TF1, mais même pour notre groupe.
Pour notre groupe, mais après,
c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme disait l'autre.
Non, mais après, on est un média qui vit de la publicité.
Demain,
vous avez un Netflix qui. Non, mais je veux dire, il faut aussi voir s'il n'y a pas. Aujourd'hui, par exemple, quand en France, tu vois, il y a une chaîne de télé qui décide de mettre un écran de publicité en plus dans un film, il faut qu'il passe par le CSA. Parce que tu n'as pas le droit de mettre de la pub tout le temps, partout, etc. Enfin, tout ça est très légiféré.
Mais tout ça va peut-être aussi évoluer. Mais ça va peut-être.
Ouais, mais encore une fois, ça veut dire que Netflix va pouvoir faire ce qu'il veut, alors que les médias traditionnels qui sont dans des situations parfois un peu plus compliquées, eux, auront toutes ces contraintes en quelque sorte.
Ouais,
ça pose plein de questions et ça peut menacer peut-être le modèle économique des radios et des télés traditionnelles.
Rien ne dit que les États vont pas demain légiférer, s'adapter, dire à l'ARCOM maintenant va regarder aussi ce que fait Netflix, et ils sont plus ou moins d'ailleurs censés le faire.
Je pense qu'il faudrait qu'ils s'en parlent du sujet.
C'est clair, mais non, je pensais à TF1 parce que c'est le grand média, la grande chaîne généraliste.
Enfin, TF1, M6, puisque dans quelques mois, ils vont fusionner.
Oui, mais je veux dire, M6 dans les contenus, c'est quand même très spécifique, c'est on va dire un peu du pas du serviciel, mais c'est du conseil, c'est beaucoup autour de la cuisine,
Il y a des séries, des films.
Après, ça veut dire aussi que peut-être que Netflix va aussi proposer des contenus qui sont concurrents aussi à ceux TF1, M6, peut-être demain de l'info, et que ils embaucheront aussi des gens derrière. Mais oui, je suis d'accord, le marché publicitaire, il n'est pas infini. Et ça va déporter une partie des téléspectateurs de TF1 ou de M6 ou de chez peu importe.
Mais c'est un sujet, à mon avis, bien plus important qu'on peut l'imaginer comme ça.
Mais de toute façon, Netflix va de plus en plus empiéter sur la télé traditionnelle. Évidemment. On avait aussi évoqué le fait qu'ils voulaient se mettre à faire du flux sur certains types de programmes, sur spectacles de comédie, qui réfléchissaient éventuellement à acheter des droits sportifs. En tout cas, c'est des choses qu'ils regardaient. Donc, de plus en plus, il va y avoir cette concurrence qui va être réelle. De toute façon, là, pour Netflix, l'enjeu, c'est générer du cash. quel que soit le moyen. Ils ont aussi des relais de croissance du côté du jeu vidéo. Ils regardent ça de manière très sérieuse aussi. Alors, ils testent ça dans certains pays. En Pologne, ils ont lancé, par exemple, pas mal de choses. Ils vont lancer des nouvelles franchises basées sur Casa de Papel, sur le jeu de la dame. Enfin, ils ont pas mal de trucs dans les tuyaux. Ils ont lancé des modes jeux vidéo sur iOS et sur Google Play également. Donc, on voit bien que voilà, ils testent plein de trucs, mais là, l'enjeu, ça va être de reprendre la croissance pour un groupe de croissance. Voilà.
Enfin bref, on parle de souveraineté, tous ces sujets-là, mais on voit que voilà, ça touche en fait tous les secteurs et même le divertissement.
Ça, c'est vrai.
Et par contre, ils ont un petit risque aussi, c'est de devoir payer, passer à la caisse, parce que là, il y a eu le rapport de l'ARCEP sur l'état d'Internet en France qui est sorti il y a quelques heures. Netflix, c'est 20% du trafic Internet en France.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc demain, les Européens, là, les opérateurs européens se disent maintenant les GAFA, bah, notamment les Netflix, les Amazon Prime, etc., les Google évidemment et YouTube, bah, vous allez passer à la caisse parce que ça nous coûte cher tout ça. Donc vous allez, alors sans toucher à la neutralité du net, c'est-à-dire que ce n'est pas les forfaits qui changeront, mais c'est plus à la source. Un risque de devoir payer finalement aux opérateurs pour entretenir le réseau.
Ouais, là aussi, c'est une bataille qui
c'est la, à mon avis, c'est la voilà. Prochaine grosse bataille.
Tout à fait. Anthony, tu voulais nous parler aussi de Meta qui accélère sur la VR, on le sait. Alors, Meta a investi des milliards et des milliards. D'ailleurs, pour certains, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'argent là-dedans. Mais enfin, après, peut-être que, espérons que Zuckerberg ne se trompe pas. Et donc, ça accélère. Enfin, ils partent sur plein de pistes, en fait, concernant la VR.
Et ils montrent leurs muscles dans le domaine de la VR. C'est vrai qu'on en parle, il n'y a pas une semaine sans qu'on parle de Metaverse et des ambitions de Facebook en la matière. Mais ils ont fait une présentation très intéressante, je trouve, où Zuckerberg, alors ce que ne fait jamais un groupe technologique, ou en tout cas très peu souvent, a montré un petit peu les coulisses de la conception des futurs casques de réalité virtuelle sur lesquels ils sont en train de travailler. C'est-à-dire qu'ils nous ont montré des prototypes avec des fils qui dépassent, avec des composants à nu, des trucs qui ne font pas vraiment rêver. En général, les grands groupes tech, ils aiment bien nous montrer des vidéos très léchées de produits finis. Et là, il nous a montré 3-4 prototypes différents avec presque un cours d'optique, si tu veux, en expliquant pourquoi la VR, techniquement, c'est pas au point aujourd'hui et pourquoi ça le sera demain et les paris qu'ils font. Donc, ils sont en train de travailler, c'est ce qu'il explique, sur des écrans HDR qu'on pourrait intégrer directement dans les casques de VR, donc des écrans comme sur les télés haute définition avec des niveaux de résolution incroyables, des contrastes complètement fous, la possibilité de faire le point sur un objet proche ou sur un objet lointain. Et il utilise cette expression très intéressante, il dit « À terme, je voudrais que nos casques de VR puissent passer un test de Turing virtuel ». Test de Turing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est d'Alan Turing, évidemment, le père de l'informatique moderne, de l'intelligence artificielle. C'était l'idée de concevoir une machine qui puisse se faire passer pour un être humain. C'est-à-dire tu discutes avec la machine et tu n'es pas capable de dire si c'est une machine ou si c'est un homme qui est en train de te répondre. Et en fait, un casque de réalité virtuelle qui passerait ce test de Turing, ce serait un casque qui, lorsque tu le mets, tu ne peux plus faire la différence entre ce qui est à l'intérieur du casque et le monde réel. Alors, on en est très, 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 très loin. Hein. On se moque assez régulièrement du métaverse tel qu'il est montré aujourd'hui par Facebook avec des avatars qu'on croirait tirer des Sims, en gros. Mais à terme, nous dit-il, avec ces prototypes qu'il nous a montrés, eh bien, on pourrait parvenir à cette réussite d'un test de Turing virtuel, ce qui serait une réussite technologique absolument incroyable, même si, encore une fois, on en est loin. Mais je trouve que l'exercice auquel il s'est prêté est assez intéressant, assez courageux.
Et puis, c'est transparent. Enfin, bon, transparent, il nous montre ce qu'il a envie de nous montrer. Mais je trouve que, voilà, ça part d'un bon sentiment, effectivement. Et on voit qu'il s'investit beaucoup là-dedans, hein, même lui, personnellement. Il connaît bien ses produits. C'est un peu le combat de sa vie.
Tu sentais que, techniquement, il était au point et que, voilà... Ils connaissaient bien. Effectivement, je pense que s'ils ont fait cette vidéo, c'est pour montrer qu'il y a un enjeu financier qui est énorme et qu'ils sont à la hauteur des investissements qu'ils sont en train de mettre. En gros, c'est voilà, la promesse qu'on vous fait, c'est ça, c'est d'aller jusqu'à ce point-là, c'est-à-dire un moment où on aura des appareils qui seront complètement miniaturisés et qui vous donneront une vision immersive et réaliste telle que vous n'en avez jamais vue. Voilà.
Raphaël.
Ouais, moi je vois ça un peu comme une preuve de petite panique quand même. C'est-à-dire que quand tu fais ça, tu dis aux investisseurs, parce que l'action elle s'est quand même effondrée, parce que justement ils investissent énormément là-dedans, parce qu'ils ont énormément de problèmes sur Facebook et Instagram, Et donc, c'est un, pour moi, la vidéo, c'est les investisseurs, si vous pouvez réinvestir dans votre action, je vous assure, hein, ce que je vous dis sur le métavers, je suis en train de le faire, je vous jure que c'est vrai, je suis en train de le faire.
Attendez
mais,
un peu.
Attendez un peu, mais je suis désolé.
Entre 5 et 10 ans, hein, les
ouais,
gars.
Ouais, mais moi, je vois cette, pour moi, cette vidéo, c'est une communication un peu de panique, c'est-à-dire d'urgence pour les investisseurs, c'est de dire, non mais on a quelque chose, je vous jure qu'on a quelque chose, parce que c'est pas les petits bonhommes pour, qui ressemblent aux Sims, et encore, c'est pas très sympa pour les Sims, c'est pas ça dans lequel on investit, c'est là-dedans. Pour moi, ça paraît tellement loin et le fait de montrer des prototypes comme ça qui n'ont aucune application pour le moment, je trouve pas que ce soit si rassurant que ça. Après de la ça... part de Facebook. Et il y a quand même autre chose. C'est, mettons que vraiment ces prototypes soient parfaitement fonctionnels et que dans 5 ans, je suis assez dubitatif, dans 5 ans, il y a un casque de réalité virtuelle qui soit absolument phénoménal. Ok, mais ils n'auront pas du tout fait 20% du boulot, parce que les 82% du boulot, c'est de convaincre les gens de l'utiliser. C'est-à-dire de dire qu'il y a un vrai usage, plus que dans du jeu vidéo, parce que faire un casque VR absolument parfait comme ils veulent le faire, moi je trouve ça génial pour jouer à des jeux vidéo. Ok, c'est clair, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent faire. Eux, leur promesse, leur investissement et leur promesse auprès de leurs investisseurs et auprès
oui,
de
c'est Ready Player One, quoi.
C'est Ready Player One. Or, il ne faut pas seulement la machine, il faut derrière les applications et il faut simplement que les gens aient envie de passer leur vie avec un casque collé sur le nez en dehors du jeu vidéo, parce que la VR sur le jeu vidéo, ça existe déjà. Donc, si leur ambition, c'est de perfectionner la VR sur le jeu vidéo, c'est génial et je suis ravi qu'ils dépensent de l'argent pour ça. Et franchement, je serais le premier à en profiter. Mais le problème, c'est que leur promesse, elle est bien plus large que ça. Et je trouve que c'est pas si... Paradoxalement, je pense que c'est pas très rassurant. Parce que ça veut dire qu'ils essaient de montrer à tout prix qu'ils font quelque chose. Mais par contre, ça ne dit rien du vrai succès de leur stratégie, qui est quand même, à la base, il faut quand même le rappeler, le métavers, c'est une communication de crise. Parce que du côté de Facebook et Instagram, c'est absolument catastrophique. C'est-à-dire qu'ils ont une image qui est absolument catastrophique. Et ils ont, financièrement, ça devient aussi, ils atteignent un cap. Et d'ailleurs, je le redis, mais à Vivatech, ils avaient un stand méta monumental.
Il n'y avait que des masques, on
ne savait pas que Facebook et Instagram existaient. Ce qui représente quand même 90% ou 95% de leur chiffre d'affaires aujourd'hui.
Mais moi, je crois que c'est plus qu'un simple coup de com' ou coup marketing, etc. Je pense qu'ils y croient réellement. Enfin, je pense que Zuckerberg, il est persuadé. Peut-être qu'encore une fois, on parlait des transhumanistes hors sol. Peut-être qu'il est dans... Il a peut-être trop regardé Ready Player One et il délire complet. Mais en tout cas, je pense qu'ils y croient.
Mais en tout cas, moi, je suis content de voir qu'une boîte comme ça met autant d'argent dans un projet qui paraît un peu fou.
Mais oui.
Parce que finalement, c'est très bien. Ça, c'est pour, pour le progrès, c'est quand même génial. On aura des machines, je suis sûr, qui vont être absolument géniales et qui seront vraiment un pas en plus par rapport à ce qui existe actuellement, mais leur promesse, elle est tellement monumentale que même en réussissant leur pari technique, ils seront très loin encore de réussir leur promesse.
Il y a un côté,
ça suffit pas.
Enfin, il y a un côté, moi, je trouve assez fort quand même, hein, de ce courage de se lancer dans ce truc-là.
Ah oui, moi, je suis d'accord avec ça.
Il récoltera ce qu'il est en train de semer dans 10 ans, pas avant.
C'est un vrai pari industriel.
Tu mises tout sur le noir c'est et t'attends que la roue s'arrête.
C'est
10 milliards par an.
C'est énorme.
Mais ça ne
si ça marche pas, je pense que Zuckerberg, il part.
Oui, il
honnêtement,
part, bien sûr.
Le problème, si tu veux,
en danger, mais
c'est qu'ils ont, ils ont lancé le projet à un moment où Facebook financièrement était très solide. C'était au top de la. Ce qu'on pourrait, je ne sais pas si on peut parler de bulle, mais en tout cas, voilà. Jusqu'à la fin de l'année dernière, globalement, les groupes tech, c'était la folie. Et puis là, ça commence à serrer le kiki un peu niveau financier. On voit bien, les résultats sont moins bons. Et d'ailleurs, parce qu'il a fait cette présentation-là très bien, mais à côté de ça, c'est un peu contradictoire avec les annonces qui ont été faites par Meta par ailleurs, qui est qu'on va quand même geler un certain nombre de projets. Je ne crois pas qu'il y a eu des licenciements, mais en tout cas, un gel des embauches dans les divisions liées à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. Donc on voit que concrètement, c'est quand même compliqué, c'est-à-dire qu'ils crachent de l'argent dans cette division-là, mais enfin, ils peuvent pas non plus, ils ont pas des fonds illimités, ce qui était peut-être le cas il y a encore quelques mois. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que y a la partie réseaux sociaux qui fonctionne beaucoup moins bien.
Ouais. D'où après tous ces lieutenants qui s'en vont, mais ça, c'est un autre débat. Hein. Tiens, un mot sur TikTok. Parce que là aussi, c'est une news qui est tombée cette semaine. TikTok est un peu, encore une fois, dans le collimateur de certains, on va dire, régulateurs américains. Ouais. Et TikTok pourrait être menacé. Alors, bon, il faut pas dramatiser et noircir le trait, mais quand même, qu'est-ce qui se passe en fait, Anthony ?
C'est aux États-Unis. Alors, je suis en train de chercher sur mon smartphone, pardon, c'est pas très poli, mais c'était pour avoir la citation exacte de ce commissaire de la FCC. Donc, la FCC, c'est le gendarme américain des télécoms.
C'est un peu l'ARCEP.
Voilà, exactement. Et qui, alors, a lancé une charge très violente contre TikTok. Alors, il faut préciser que c'est un commissaire, ils sont quatre, donc ça n'engage pas la FCC. Mais enfin, ça montre quand même qu'il y a une pression qui est en train de monter pour faire interdire TikTok. Lui demande l'interdiction pure et simple de TikTok sur les boutiques d'applications de Google et d'Apple. Donc, il s'adresse à Tim Cook et Sundar Pichai, il leur a envoyé une lettre. Et donc, je le cite, « TikTok est un loup déguisé en agneau. Ce n'est pas juste une application pour partager des vidéos amusantes. C'est un outil de surveillance sophistiqué, un risque inacceptable pour notre sécurité nationale. » En gros, on accuse TikTok d'être un outil d'espionnage au service de Pékin. Alors, notamment sur la base d'articles de presse qui sont parus aux États-Unis et d'articles de chercheurs qui montrent des trucs, c'est vrai, assez effroyables sur le fait que TikTok récolterait, siphonnerait en gros toutes les données des utilisateurs américains et les renverrait vers la Chine. Et y compris des trucs comme, ce qu'on pourrait se dire, bon, les données, qu'est-ce que c'est les données? C'est par exemple des traces du visage, traces biométriques qui sont réutilisées ensuite pour concevoir des systèmes de reconnaissance faciale par d'autres entreprises que TikTok. Donc là, tu te dis, sans demander l'autorisation à personne, c'est vrai que ça peut être problématique. Alors, si c'est avéré, encore une fois, hein, parce que c'est des informations de presse, et on sait qu'il y a eu aussi des pressions pour que la presse américaine dénigre TikTok, notamment financée par Facebook. Enfin, il y a plein d'histoires autour de ça. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que là, il y a une pression qui est en train de monter autour de TikTok. Alors, est-ce qu'ils seront interdits purement et simplement sur les smartphones iOS et Android, ça ferait bien les affaires de Mark Zuckerberg. Apple et Google doivent donner une réponse d'ici le 8 juillet, voilà, à cette injonction.
C'est ce que voulait Trump. Ouais. Là-dessus, c'était bon. Il avait identifié, alors c'était évidemment très politique, mais il a identifié un problème qui est réel, c'est le transfert des données en Chine. Et il y a quand même deux éléments qui sont très concrets. Un, TikTok transfère des données qui viennent des utilisateurs occidentaux vers la Chine. Alors, ils ont dit, on essaie de minimiser, etc. Moi, du coup, à la suite de l'article, j'ai envoyé une question à TikTok. J'aurais dit, est-ce que vous vous engagez à ne pas transférer de données de Français en Chine? Ils m'ont dit, non, ils ne sont pas engagés à ça. Ils disent, on minimise, il n'y a pas trop de monde qui regarde, etc.
C'est intéressant,
ça. Mais ils n'ont pas voulu me dire, non, on ne transfère pas. Donc, ils transfèrent des données de Français, par exemple, en Chine. Ensuite, autre élément important, tous les acteurs de la tech en Chine ont signé une sorte d'accord pour œuvrer dans l'intérêt du Parti communiste chinois. Il y a une sorte d'alliance.
Tout à fait. Et puis, si tu ne la signes pas,
fini.
Tu pars en vacances pendant trois mois, on ne sait pas où.
Donc, on a une entreprise quand même, il faut quand même le rappeler.
Voilà. Tu reviens, t'es bien. T'es bien.
Tu dis que le Xi Jinping est génial.
C'est ça. Et tu le penses
donc,
en plus.
Donc, on a quand même deux éléments. Un, TikTok transfère des données d'utilisateurs occidentaux et français en Chine. Deux, TikTok doit matériellement et obligatoirement œuvrer dans l'intérêt du Parti communiste chinois. Donc, une fois qu'on a ces deux informations, on peut quand même se demander s'il n'y a pas des mesures à prendre contre TikTok. Donc ça, c'est des faits. Après, est-ce que tant d'informations que ça sont transférées en Chine, est-ce que toutes les informations sont transférées en Chine? On ne le sait pas. On ne le saura pas. Alors TikTok s'engage à stocker plus en Irlande, en Europe, aussi aux États-Unis. Mais il y a quand même un faisceau d'éléments qui pose clairement problème. Évidemment, c'est dans l'intérêt total des Américains, c'est dans l'intérêt total de Facebook. Ça n'enlève pas que les questions sont réelles. Et comme je le disais, voilà, TikTok ne s'engage pas à ne pas transférer ses données.
Et aux États-Unis, en revanche, ils s'y étaient engagés. C'est ça le truc aussi. C'est qu'ils avaient promis que les données des utilisateurs américains seraient stockées sur le territoire américain. Et je crois qu'ils avaient signé un accord avec Oracle, d'ailleurs, sur ce sujet. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient pipoté à tel point. Alors, même s'ils disent que ce n'est pas vrai, mais ils ont quand même payé, alors c'était 60 millions de dollars ou quelque chose comme ça, pour régler une class action qui leur avait été intentée au motif qu'ils transféreraient des informations d'utilisateurs américains vers la Chine. Donc, s'ils ont accepté de payer, c'est qu'ils devaient se dire que probablement, ils n'étaient pas
c'était pas très propre.
C'était pas très propre, effectivement. Donc, c'est problématique. Mais je reviens en une seconde sur ce que je disais juste avant quand même, sur attention aussi à tout le linge sale qu'on déballe sur TikTok, notamment aux États-Unis, parce que, et on avait eu l'occasion d'en parler ici, on a su que Facebook avait engagé une agence de com spécifique pour salir TikTok, pour vraiment essayer d'influencer la presse, leur prendre des fausses informations et des trucs vraiment assez sales. Hein,
tu veux dire que Meta a peut-être fait du lobbying auprès de la FCC?
Mais ça, c'est une certitude. Mais au même titre que TikTok doit faire aussi son lobbying et tout. Tout le monde le fait.
Voilà.
Je veux dire,
bien sûr. Prendre toujours avec des pincettes,
c'est
juste ça.
Bien sûr.
Il nous reste deux minutes, les amis. Peut-être dire un mot sur une innovation du côté de chez Bouygues Télécom qui a annoncé il y a quelques jours l'arrivée de la première box 5G. Intéressant, ça fait des années qu'on en parle de cette fameuse box 5G qui serait là pour désenclaver un peu les régions où il n'y a pas de haut débit. Donc voilà, Bouygues l'a annoncé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ?
Bah, la première question, on en discutait un petit peu en antenne avant, mais c'est qu'on se pose, c'est à qui ça va servir, à qui ça s'adresse réellement, quoi. C'est-à-dire, box 5G, tu te dis, là où t'as pas la 5G et où t'as pas la fibre, c'est assez rare. Enfin, il y a un problème de
compatibilité. Quand on voit la couverture 5G aujourd'hui, voilà. Demain ce sera différent, mais aujourd'hui, c'est principalement les grandes agglomérations, donc là où quand même, on a plutôt de la fibre.
Donc c'est, du coup, voilà, je trouve que c'est une super bonne initiative, je trouve ça intéressant et j'ai hâte de tester le produit. Mais je me demande concrètement à quel pourcentage de la population ça s'adresse. À mon avis, un pourcentage assez faible.
Après, bon, moi qui suis en partie Corse, c'est vrai qu'il y a des endroits où vous avez, en Corse, il y a plein de montagnes, et vous avez des endroits où vous avez la fibre qui est en bas de la montagne, et vous êtes en haut de la montagne, ben vous avez un ADSL à 1 méga parce que vous captez, enfin, il n'y a pas de fibre.
Et tu captes bien l'antenne.
Et tu captes bien la 4G, ouais. et peut-être que déjà tu captes bien la 5G. Mmh. Là, dans ce cas-là précis, tu peux être à 500 mètres, tu vois, tu es à 500 mètres d'un endroit où il n'y a plus de fibre, ben tu es bien content d'avoir une box 5G,
parce que tu
capteras encore la 5G. Alors évidemment, ça ne va pas être des millions de gens. Mais mine de rien, ça peut peut-être désenclaver des zones où il n'y a pas de fibre, où la 5G passe encore bien, tu vois, parce que la fibre n'est pas très très loin, et on est de plus en plus dans ces zones-là. Hein.
Sachant que c'est évidemment une box aussi 4G à la base,
et 4G
en plus.
Voilà,
donc
un peu le plus, peu le moins.
Mine de rien,
on monte jusqu'à... Enfin, après, c'est des débits, comme on dit... voilà, mais théoriques, pardon.
Théorique, oui.
On dépasse le gigabit. Si on capte bien la 5G.
Je pense qu'ils le sortent assez tôt, c'est les premiers à le sortir, mais que dans les prochaines années, il y aura comme ça des endroits où il y aura la fibre, parce qu'évidemment l'antenne relais 5G, elle est évidemment connectée à la fibre, mais elle ne va pas jusqu'à la maison, voilà, tout simplement, il reste 100 mètres à faire et ça n'a pas été fait.
Et tu branches ta box.
Et là, c'est canon, moi je trouve ça canon.
Donc, en attendant d'avoir la fibre, par exemple.
Ou en attendant d'avoir Starlink. Alors, il y a ça, et moi par contre, ce que j'attends, je dérive un peu, ce que j'attends surtout, les PC et les Mac, 5G,
tu as raison,
parce que ça
va,
serait génial.
Ça va aussi arriver, je pense. Dernière chose, ça coûte 40 euros par mois et c'est de l'illimité. C'est quand même à préciser, c'est quand même de la data illimitée. On sait qu'en général, avec les réseaux cellulaires 4G et 5G, l'illimité est très rare. Donc là, saluons quand même la prouesse de Bouygues. Et puis, on peut imaginer que ça va arriver chez les autres opérateurs.
Gros potentiel en Corse, ça, j'avais oublié nos amis Corse.
Petit bémol quand même, c'est l'upload, hein, on l'a vu tout à l'heure avec les informations.
L'upload est à quoi, 80, un truc comme ça.
On est à 58 mégas,
ouais.
Donc voilà, parce que l'upload en 5G, pour l'instant en tout cas, avant que la vraie 5G arrive, c'est pas terrible. Messieurs, merci, c'était top encore une fois cette petite heure de tech avec Anthony Morel. Merci Anthony.
Bah, merci à tous les deux, merci à tous.
À très très vite, on se retrouve la semaine prochaine et merci aussi à Raphaël Grabli. De quoi je me mêle est terminé, portez-vous bien. Bonne semaine à vous toutes et à vous tous. Les vacances arrivent pour certains d'entre vous. Profitez bien si c'est le cas et on sera là encore la semaine prochaine. Salut à tous.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.